90.3.
Il est midi.
Tric reçoit les acteurs politiques de notre territoire, femmes ou hommes, les jeudis de 11h à 12h sur Côte-Sud FM 90.3.
Et bonjour, écoutez, c'est à nouveau un plaisir de se retrouver. Et dans le cadre de la préparation aux élections européennes qui vont se dérouler le 9 juin prochain, c'est un dimanche, donc aucune excuse pour ne pas aller voter. Nous recevons aujourd'hui le représentant d'Europe Écologie Les Verts, Gérard Claverie, concernant les Landes. Et donc, bonjour Gérard.
Bonjour tout le monde.
Bon, alors moi c'est Patrick.
Bonjour Patrick.
Je sais que je représente tout le monde, mais bon, on va être un peu plus sérieux, mais encore qu'on peut parler d'une manière humoristique et peut-être aller au fond des choses. Gérard, ça ne vous a pas échappé qu'il y a ces derniers mois eu un gros problème avec l'agriculture. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'agriculture ou des agriculteurs ? Est-ce qu'on peut parler d'agriculteurs ou des agriculteurs ? Parce que c'est peut-être pas tout à fait la même chose et je pense que les Landes sont bien le type pour le savoir.
Alors oui, effectivement, l'agriculture est multiple comme souvent tous les métiers. Il y a des gros agriculteurs qui ne sont plus des agriculteurs, qui sont en fait des
chefs d'entreprise.
Oui, ce sont des chefs d'entreprise, des grosses multinationales, enfin des trucs qui n'ont plus rien à voir avec l'agriculture telle qu'on peut la connaître dans nos contrées. Et puis après, il y a
l'agriculture. Vous voulez viser peut-être le président de la FNSEA.
Ah, je ne l'ai pas nommé, mais effectivement, non, hein. M. Rousseau n'est pas un agriculteur.
Non. Il a 600 hectares, je crois, il est président d'une coopérative.
Président d'une coopérative, il est PDG du groupe Avril, qui est de l'agro.
Et ça tombe bien, parce qu'on dit souvent, ne te découvre pas
d'un fil. Effectivement, mais Avril. Lui, il s'est bien couvert, par contre. Oui. Il n'y a pas de souci.
Bien, on l'apprécie.
Ouais, j'en ai d'autres, des comme ça.
Il ne faut pas se priver.
Ah, ouais. Et donc, oui, effectivement, bon, M. Rousseau, lui, ce n'est pas un agriculteur, c'est un industriel. Un industriel de l'agrochimie. Ça n'a rien à voir avec un agriculteur. Et puis après, vous avez à la base des agriculteurs qui, eux, par contre, marnent tous les jours et qui ont des gros problèmes. Effectivement, l'agriculture, elle est particulièrement diverse. Ouais.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Quel est le programme de Europe Écologie Les Verts pour ces élections européennes concernant l'agriculture? Est-ce que vous avez une orientation, des mesures à voter? Je ne sais pas.
Aujourd'hui, les agriculteurs sont confrontés à plusieurs choses. Ils sont confrontés à, si vous voulez, une concurrence. Je ne sais pas si on peut appeler ça déloyale, mais une concurrence internationale, on va dire, qui sont souvent dues. Pas toujours, mais qui sont souvent dus à des accords de libre-échange signés par la communauté européenne avec d'autres pays qui n'ont pas les mêmes standards que nous.
Si elle est votée, c'est légal.
C'est légal. Après, il y a une question d'organisation pratique et puis il y a une question de moralité aussi. Donc, si on commence à opposer la légalité et la moralité, on va faire un discours philosophique et on n'est pas sorti, on est là jusqu'à demain. Donc,
prenez vos sacs de couchage.
Donc, je pense qu'il y a une question. Bien sûr, c'est voté, c'est légal. Le problème, c'est qu'on oppose des systèmes qui n'ont pas les mêmes standards. Voilà. Prenons un exemple très simple.
C'est les lobbies qui vont justement pousser à avantager plutôt tel type d'agriculture, tel type d'économie, et qui font que justement, qu'est-ce qui en pâtit le plus ? C'est le petit, quoi,
c'est le petit agriculteur. C'est le petit agriculteur qui en subit les conséquences, d'autant plus que là, quand on en est dans des accords de libre-échange, on ne parle pas d'agriculture, on parle de business, on parle d'argent, on parle d'intérêt.
Mais les agriculteurs aussi parlent d'argent.
Oui,
quand ils disent qu'on gagne ne suffit pas pour vivre, on veut bien l'entendre.
Ouais.
Mais donc, ils parlent aussi d'argent.
Ils parlent d'argent, mais ce n'est pas au même niveau, là.
Ah, d'accord.
C'est quand on parle en
international. Ils ne parlent pas de milliards d'euros, non ?
Non, les pauvres gars, s'ils arrivaient déjà à se payer un SMIC, ils seraient ravis. Ouais. Et ce n'est pas le cas. Donc là, quand on est dans des accords de libre-échange, on parle d'argent, on parle de business, on parle d'agro-industrie, on parle de chimie. C'est tout à fait... On n'est plus du tout dans le même monde. Et si vous voulez, les standards... Je vais vous prendre un exemple. Vous savez... Le chlordécone qui est utilisé par exemple pour le traitement des bananeraies, on ne l'utilise plus dans les territoires français depuis quelques années déjà. Mais par contre, dans les accords de libre-échange, on a le droit d'importer des bananes qui sont toujours traitées avec ce produit-là. Comment voulez-vous qu'on y arrive ? C'est un exemple, mais il peut y en avoir des tas comme ça.
Voilà. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, pour rendre équitable la concurrence, il faudrait mettre un cahier des charges le même pour tous.
Et oui.
Et à ce moment-là, le mieux offrant remportera le marché. Mais il est évident que si en effet on utilise des produits nocifs pour la santé, mais qui fait que les récoltes type banane augmentent, donc on peut diminuer les prix, ça fait que nos bananes venant de Martinique, de Guadeloupe et autres sont plus concurrentielles.
Mais absolument. Mais on peut
ça, c'est valable aussi pour beaucoup de choses.
C'est un exemple, mais on peut le mettre également sur l'élevage, par exemple, sur l'élevage où on a un certain nombre de produits qui ne sont pas, qui sont interdits en France, mais qui par contre sont autorisés à l'international. Et donc on se retrouve dans nos assiettes avec des produits que de toute façon, nous ne voulons plus, mais qui sont toujours autorisés à l'international. Donc,
les véganes vont se réjouir si on ne fait plus de l'élevage de viande, entre guillemets, les véganes disent « Ah, ben voilà, grâce à ça, on a sauvé des vaches. »
Oui, bien sûr. On peut le voir comme ça.
Ça marche. Oui, mais dans les Landes, ce n'est pas terrible. Là,
non, pas
c'est
vraiment.
Pas un argument.
Mais dans les Landes
ou ailleurs.
Pas spécialement les Landes.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc, voilà, il y a des exemples comme ça qui sont... donc, il y a eu... je pense qu'il serait nécessaire de revoir un petit peu ces accords de libre-échange, voire carrément de les arrêter.
Voilà. Une renégociation.
Oui, une renégociation de ces accords de libre-échange de façon à mettre tout le monde au moins sur le même niveau. La question n'est pas d'interdire le commerce international. On n'en a pas les moyens et puis c'est pas dans l'intérêt de personne. Mais par contre, de dire, bon, OK... On fait, mais tout le monde pareil.
D'accord.
Si vous ne pouvez pas vous aligner, ben on ne fait pas d'accord avec vous, c'est tout.
Oui.
Et ça c'est le minimum des choses. Alors c'est sûr qu'après, le tarif n'est pas le même.
Oui.
Quel est l'intérêt ? Alors moi qui suis écolo, mais nous qui sommes écolos, je vais parler pour nous. Quel est l'intérêt, franchement, et quel est le bilan de faire venir des bovins d'Argentine alors qu'on a les mêmes choses ici en France ou en Europe ?
Oui, non, mais c'est
par
sûr.
Bateau, bon, franchement, c'est, je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques années ce navire qui a coulé dans les eaux turques. Il venait, je ne sais plus, de Nouvelle-Zélande, d'Argentine, chargé de bovins. Ça n'a aucun sens. Ce type de commerce est complètement abracadabrant.
C'est-à-dire que le commerçant, il s'y retrouve parce qu'il peut vendre moins cher et le consommateur s'y retrouve parce qu'il peut acheter moins cher. Sauf que c'est faut envisager le fait que le moins cher n'est pas forcément le meilleur.
Eh bien non.
Au niveau santé comme au niveau goût.
D'une part, et puis de toute façon, il ne faut pas oublier aussi. Alors le moins cher, comme vous dites, c'est le moins cher, ce n'est pas forcément le meilleur, mais ça se fait surtout au détriment de nos propres éleveurs, au détriment de nos propres agriculteurs.
Parce et au détriment, comment dire, des consommateurs, puisque entre le prix d'utilisation, enfin d'élevage ou autre, et quand ça passe au niveau du consommateur, il se greffe les distributeurs, les transporteurs, et ce qui fait que le consommateur, lui, en tout cas en fin de chaîne, va se retrouver perdant.
Oui, absolument. Donc il y a remise en cause effectivement de ces accords de libre-échange qui sont particuliers.
Et des subventions. Parce que si j'ai bien compris, 80% des subventions vont à 20% des exploitations. Ça veut dire que les 20% restants vont à 80% des exploitations restantes. Alors, donc ça veut dire qu'il y a quand même un déséquilibre. Donc bien sûr qu'il y a une lutte à mener au niveau de l'Europe, mais je crois qu'il y a une lutte aussi à mener au niveau intramuros France.
Alors oui, et d'autant plus que c'est quelque chose qui est très ancien. Moi, quand j'étais au lycée, c'était déjà comme ça.
Oui.
Et j'ai quand même quelques
années...
Moi,
en maternelle aussi,
d'ailleurs. Et j'ai passé quelques années entre-temps. Donc le problème qui s'est passé, si vous voulez, c'est que je pense que ça s'est passé à peu près à l'époque où le général de Gaulle était président de la République... On a eu le tort, selon moi, d'accorder à un syndicat la possibilité d'être le seul, si vous voulez, interlocuteur entre le gouvernement et les agriculteurs. Et la dérive, elle vient de là.
D'accord.
Voilà.
Bon, ben, écoutez, donc, c'est le cas de dire, il y a du pain sur la planche.
Oui, beaucoup.
Et parce que ça ramène pas mal de blé pour certains. Justement, en parlant de blé, un des grands producteurs de blé à une certaine période, et peut-être encore maintenant, c'est l'Ukraine. Oui. Alors, quelle est la position d'Europe Écologie Les Verts concernant l'invasion russe poutinienne sur un territoire qui demandait qu'à vivre en paix?
Eh bien, alors, vous savez que le problème de la Russie et de l'Ukraine, c'est un problème qui est très ancien, qui ne date pas de Poutine, qui date même de l'époque des tsars. Hélène Carrère d'Encausse, dans l'Empire éclaté, appelait les frères ennemis. La Russie et l'Ukraine, c'était les frères ennemis. Alors, il y a une...
Ça n'a pas changé, donc?
Non, ça n'a pas changé.
D'accord.
Et c'est toujours pareil. Il y a une communauté de culture, plus ou moins, quand même importante. Mais par contre, il y a des enjeux géostratégiques. Et à l'époque des tsars, l'intérêt des tsars, c'était d'avoir un débouché sur les mers du sud, puisque 6 mois durant, au nord, c'était gelé. Donc, il y avait un intérêt géostratégique, des conflits, machin, etc., pour que, si vous voulez, l'Empire russe puisse avoir un débouché sur la mer Noire, voilà, et la Méditerranée via le Bosphore. Donc ça, ça n'a pas changé. Et c'est toujours le cas à l'heure actuelle.
Oui.
C'est toujours le cas à l'heure actuelle. C'est un problème géostratégique dans l'esprit de Poutine. À part que lui, son problème à lui, c'est qu'il est resté prisonnier de l'Union soviétique et de l'Empire soviétique. Il n'est pas sorti de là.
Et oui, parce que quand l'Empire soviétique est devenu la communauté des États indépendants, parce qu'il fallait ramener dans une structure qui essayait de coordonner un petit peu les richesses qui avaient été... Parce que l'Union soviétique avait une politique de spécialisation des États. L'Ukraine, c'était le blé, l'autre, c'était le fer, l'autre, c'était l'alimentation, etc. Et donc, il a fallu ramener. Et donc, le problème, c'est qu'on appelait l'Ukraine le grenier à blé, hein, le grenier à grains de l'Union soviétique. Et donc, entre-temps, l'Union soviétique, qui est devenue la Russie, la Fédération russe, a produit du blé. Alors, j'entends bien, géostratégique, pouvoir avoir accès à la mer de manière à pouvoir se désenclaver. Mais bon, est-ce qu'on fait une guerre pour ça?
Alors, c'est là tout le problème. C'est que Poutine, lorsqu'il a envahi l'Ukraine, s'est placé si vous voulez... Le,
2014, il me semble.
Alors...
Pour l'Ukraine.
Pour l'Ukraine, 2014 pour la Crimée. Et l'Ukraine, c'est donc 2022. Mais...
Bah, c'était... Non, 2014, c'était la Crimée, mais la Crimée appartenait à l'Ukraine.
Oui, absolument.
Donc c'était déjà une agression.
C'était déjà une agression. Et ensuite, il y a effectivement toutes les parties, si vous voulez, russophones du Donbass, etc. Bon,
d'accord.
Ça, c'est une chose. Mais... Poutine, lorsqu'il a envahi l'Ukraine véritablement, c'est-à-dire lorsqu'il a déclenché la guerre de Russie, il s'est mis sous les quatre chefs d'accusation de Nuremberg, qui sont très simples et qui font toujours jurisprudence. Ces quatre chefs d'accusation qui ont conduit les chefs nazis à la potence. Ces quatre chefs d'accusation sont complot contre la paix, guerre d'agression, crime de guerre et crime contre l'humanité.
Il s'en fout.
Oui, bien sûr, il s'en fout.
Mais aujourd'hui, peut-être.
Aujourd'hui. Complot contre la paix, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, il va préparer en fait, son économie, son anti, et justifier par tout un tas de manœuvres son intervention militaire. Ça a été donc... il s'est servi du Donbass, comme Hitler s'est servi des Sudètes pour envahir la Tchécoslovaquie. C'est un parallèle historique, c'est tout bête. Alors les raisons sont pas...
Rappelons que les Sudètes, c'était une partie de la Tchécoslovaquie à l'époque, et il y avait une forte minorité allemande, et donc cette minorité allemande demandait le rattachement à l'Allemagne, et à partir de là, bon, ça s'est suivi ce qu'on sait par la suite avec la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, et donc c'est pour ce qui concerne les républiques du Donbass, Poutine a fait la même chose. Et ensuite, il a justifié son agression militaire par tout un tas de trucs, alors ça notamment, mais également non-respect des accords Clinton-Eltsine, non-respect des accords de Minsk en 2015, etc. etc. Bon. Est-ce qu'il faut déclarer une guerre parce qu'on ne respecte pas les accords internationaux? Staline n'a jamais respecté les accords de Yalta, on n'a pas déclaré la guerre à l'Union soviétique pour autant. Donc non, ça ne se justifie pas, bien entendu, ça se règle par la discussion et par la diplomatie.
Vous voulez dire qu'il mérite une mauvaise note?
Je pense qu'il mériterait carrément d'être traduit devant la justice internationale.
Donc une mauvaise note, ce qui va nous permettre de faire une transition pour avoir eh bien, un écho musical.
Par exemple.
24 heures sur 24, la radio Sud-Aquitaine, Côte Sud-FM, 90.3.
Ma mère, voici le temps venu d'aller parier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer mon drap. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, punisse-moi là. Fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été. La Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller. Souviens-toi qu'elle t'a déchiré. La Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous mes mains, restez tranquilles. C'est un chien qui nous revient de la ville. Mathilde est revenue. Et vous mes mains, ne frappez pas. Tout ça ne vous regarde pas. Mathilde est revenue. Et vous mes mains, ne tremblez plus. Souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Sacrée Mathilde, puisque te voilà.
À Jos, j'écoute Côte Sud FM 90.3.
Eh bien, nous, on est en direct avec Gérard Claverie, qui est le représentant de Europe Écologie Les Verts, et dont on discutait à bâton rompu, c'est le cas de le dire, concernant, comment dire, l'Ukraine. Et donc, on est arrêté à l'historique et la condamnation de l'invasion soviétique. Hein, on va le dire comme ça, de la Fédération russe par rapport au territoire russe et avec le problème de Crimée, du Donbass, etc. Mais alors, quelle est la position? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je sais que certains disent il faut négocier. La diplomatie, c'est formidable. Sauf que pour négocier, il faut être deux. Il faut être en position, je dirais, de force pour que justement l'autre puisse entendre. Si l'autre est en position de force, il ne veut pas négocier. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard?
En fait, en réalité, à partir du moment où vous avez un État qui envahit un autre État, de toute façon, il est évident que l'État envahisseur n'est pas prompt à vouloir négocier quoi que ce soit. Sauf si il sera prêt à négocier quand il aura obtenu ce qu'il veut, c'est-à-dire en fait la mainmise sur l'Ukraine. Et là, à ce moment-là, ça sera à la table des négociations. J'imagine que c'est un peu ce que j'essaie de comprendre un petit peu sa psychologie, c'est que c'est compliqué. Hein. C'est quelqu'un de très complexe et de très, très pervers. Je parle de Poutine, là.
On l'avait compris comme ça.
Bon, ça va. Et donc, après, effectivement, il faut toujours laisser la porte ouverte à la diplomatie. Il faut toujours essayer de trouver une solution. Le problème de Poutine, c'est que... il n'a pas accepté, si vous voulez, l'effondrement de l'Empire soviétique. Psychologiquement, c'est quelque chose qui... Mais il n'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de gens dans le KGB qui... Bon, parce que c'est un ancien colonel du KGB. Donc, dans cette organisation extrêmement dure, extrêmement tordue...
Et mafieuse.
Et mafieuse, oui. C'est devenu aujourd'hui, oui, ça n'a peut-être pas été le cas autrefois, mais c'est le cas aujourd'hui. Dans cette organisation, il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui. Donc il est dans cette perspective, si vous voulez, de garder ce que le monde diplomatique appelle le glacis, c'est-à-dire en fait des pays qui vont servir de zone tampon entre la Russie et l'OTAN. Et l'Ukraine, toutes les négociations depuis Clinton et Helsinki jusqu'aux accords de Minsk avec Hollande et Merkel, c'est de garder, si vous voulez, une zone tampon de façon à ce qu'il n'y ait pas de frontières communes entre les deux pays. C'est son optique, lui. Et pour lui, si vous voulez, ça n'a pas été respecté.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, c'est une bonne question. Je vous remercie d'avoir posé, comme disait l'autre. Il faut garder la porte ouverte à la diplomatie. Ce que je crois qu'essaie de faire Macron, hein, d'ailleurs. Hein. Il fait comme il peut. Bon, on peut toujours le critiquer, etc. Et Dieu sait qu'il est critiquable. Mais il essaie quand même de garder la porte ouverte à la négociation, à essayer de sortir par le haut de cette histoire.
Le canal reste ouvert.
Le canal reste ouvert, oui, bien sûr, mais pas seulement que Macron. Hein. Tous les autres canaux restent ouverts. L'Allemagne, ça reste ouvert. L'Angleterre, ça reste ouvert. Les États-Unis également. Bon, il y a toujours des discussions qui se font aujourd'hui pour essayer de limiter, voire peut-être de stopper cette offensive et de se dire, bon, voilà, on s'assoit autour de la table et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que bon, ça va quoi. Il espérait régler le problème en 3 ans. 2 ans après, on y est toujours. Voilà.
Tout à fait.
Donc il n'a pas réussi. Alors il n'a pas réussi parce que l'Occident et l'OTAN a énormément aidé l'Ukraine. Ils ont continué énormément à l'aider. Je pense qu'il ne faut pas abandonner l'Ukraine parce que si on abandonne l'Ukraine, vous avez...
C'est la Pologne, c'est les Pays-Baltes après qui
c'est,
sont...
C'est bien pire que ça. C'est tout le reste. C'est tout le reste. C'est l'Afrique, c'est Taïwan,
ça, etc. C'est déjà l'Afrique, c'est déjà...
C'est déjà le cas parce qu'on est en train de se faire virer de partout.
Ouais. Mais que nous d'ailleurs, même les Américains,
ouais, si j'avais compris. Mais par contre, il y a également Taïwan.
Oui.
Et les Chinois regardent ça de près.
Tout à fait.
Donc, il faut, si on abandonne l'Ukraine aujourd'hui, ça signifie que c'est un blanc-seing pour la Chine avec Taïwan. Et il faut faire très très attention à ça parce qu'en fait, tout se tient. Il ne faut pas s'imaginer que l'Ukraine est un élément et que l'Afrique c'est un autre élément et que Taïwan... Non, en fait, tout ça se tient.
C'est ce qu'on appelle la géopolitique.
C'est ce qu'on appelle surtout ce qu'on peut appeler, ce que moi j'appelle en tout cas, la multiplication des fronts. C'est-à-dire qu'on est, je vais faire vite, à l'époque de la guerre froide, on avait deux blocs, le bloc occidental, l'OTAN, etc. aussi, puis le bloc soviétique en face. Le bloc soviétique, entre-temps, a explosé, mais il s'est reconstitué différemment. Par une espèce de conglomérat d'intérêts très particuliers. On retrouve effectivement la Russie, on va retrouver l'Iran, on retrouve la Chine, on retrouve la Corée du Nord. Bon, avec des intérêts particuliers, mais un point commun, c'est l'anti-occidentalisme.
Oui. Ça, c'est... Les ennemis de mes ennemis sont mes amis.
C'est ça. Donc, après, ils ont des tas d'intérêts divergents, mais en fait, ils ont un anti-occidentalisme vraiment très virulent. Et c'est ce qui fait qu'en fait, en réalité, on se retrouve maintenant devant ce que moi j'appelle la multiplication des fronts. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'Ukraine, on a le Moyen-Orient, on a l'Afrique, on a le Haut-Karabakh, etc., etc. Bon, bref, ça continue. Et le but de tout ça, c'est d'amoindrir en fait la réponse occidentale sur chaque dossier. Et ça marche. Ça marche. Voilà.
Est-ce que vous croyez que bon, l'Ukraine qui devait être prise en 3 jours, ça fait 3 ans, est-ce que ça marche ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu l'objectif de faire éclater l'Europe, et au contraire, j'ai le sentiment qu'il y a eu une réunification d'une seule force au niveau de l'Europe et au niveau de l'OTAN. Alors que l'OTAN était, comment dire, obsolète, laissée, comment dire, à volo. L'Europe cherchait une seule voie. J'ai l'impression qu'il a réussi, au contraire, à cimenter ce qui était en déliquescence à un moment donné.
Alors, il y a 2 aspects des choses. Il y a effectivement la position de l'Union soviétique, de la Russie sur le...
Ça colle à la peau.
C'est pas faux.
The Néo, Union soviétique.
Et donc, il y a effectivement l'action de la Russie sur l'Ukraine, mais également, il y a eu comme élément révélateur la position de Trump vis-à-vis de l'OTAN et vis-à-vis des pays européens, qui nous a fait prendre conscience d'une chose, c'est que nous sommes un géant économique, mais militairement, un pied d'argile.
Et... Ah, on est la première puissance mondiale, l'Europe.
Ah ouais, Mais par contre, militairement, on est inexistant. Et comme disait Staline, vous savez, quand il parlait du pape, le
combien
pape...
De divisions.
Combien de divisions? Bon, et nous, c'est combien on a de divisions? On en a, mais elles sont très disparates.
Oui.
Et ça nous a fait prendre conscience, ou tout au moins de relancer l'idée d'une armée européenne.
Et d'armement.
Et bien entendu. Donc, ça.
Parce que là-dessus, on n'est pas mauvais. L'Europe n'est pas mauvaise. Hein.
Non.
Au niveau des avions, des tanks, des canons et tout.
Oui.
Simplement, il faut cimenter, faire en sorte que ça soit un et non pas multiple.
Alors, c'est un et pas multiple, ça, c'est une chose. Mais surtout, c'est qu'on n'est pas dans une économie de guerre.
Non.
Poutine, ça fait 20 ans qu'il réarme. Nous, ce n'est pas le cas. On a cru qu'à partir de l'effondrement de l'Union soviétique, c'est ce que disait Alain Bauer dans son bouquin, on a cru que ça y est, tout était gagné, que tout serait un grand marché international, etc., et qu'il n'y avait plus de raison. Donc on a coupé dans les crédits militaires, partout, hein. On a coupé dans les services publics, on a coupé partout, tout était finalement commerciable. Bon, on s'aperçoit que ce n'est pas le vrai. Et que quand vous avez un pays qui réarme et que les autres ne le font pas, au bout d'un moment, le réveil est difficile. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, on a besoin d'une armée commune, ne plus dépendre des États-Unis, d'Amérique pour la défense militaire. On a besoin d'une armée commune et on a besoin également d'une industrie qui aille dans ce sens commune. Un exemple très simple, savez-vous combien de temps il faut pour fabriquer un canon César? Vous ne savez pas?
Ah, si,
il faut 3 ans. À l'heure actuelle, 3 ans, ouais. C'est quelque chose de phénoménal.
Bien
un
sûr.
Canon,
bah,
vous imaginez.
C'est une technologie qui est si complexe qu'on peut se dire qu'il faut s'y prendre à l'avance.
Et il faut s'y prendre à l'avance, mais surtout, c'est qu'on n'est pas du tout dans une optique,
ouais.
Dans une optique de défense, même pas, je parle même de la France. La France aujourd'hui, dans un conflit même de moyenne intensité, on ne tient pas le choc. Alors, je ne parle même pas de haute intensité, alors là, ce n'est même pas la peine d'en parler. On n'a pas les moyens de nos ambitions. Voilà.
Bon, alors on va se tourner sur quelque chose de, quand même de plus gai, de plus serein et tout. Le Proche-Orient.
Oui. Aïe, aïe, aïe.
Eh oui, ben, Europe et les colonies vertes, vous allez, comment dire, avoir des députés, enfin, on vous le souhaite, comme aux autres d'ailleurs, des députés, et vous allez discuter de l'aide ou pas, quelle hauteur, comment, etc. Donc, quelle est la position d'Europe Écologie, les Verts, concernant le Proche-Orient?
Alors, la position d'Europe Écologie Les Verts, elle est un petit peu comme sur la, si vous voulez, l'Ukraine. C'est que aujourd'hui, nous avons un conflit. Un conflit qui a été déclenché, enfin, qui est très ancien, hein, il ne date pas du 7 octobre, mais disons que la réponse au 7 octobre, aujourd'hui, continue. Massacre des civils.
Mutilation.
Et ouais. Bon,
viol. Bon, entre guillemets, du 7 octobre,
oui.
Viol, découper comment dire, le corps de,
ouais.
de personnes
ouais.
encore en vie.
Ouais.
Mais c'est pas un conflit. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un conflit dès lors que le Hamas est un organisme terroriste?
Alors, c'est pas un conflit armé au sens classique où on l'entend, mais c'est quand même un conflit. Il y a quand même, si vous voulez, une guerre entre deux entités. Alors, une entité qui est, bien sûr, qui est un État, l'État d'Israël. Et puis après, on se retrouve toujours dans ce que je vous disais, une espèce de conglomérat terroriste. Il y a le Hamas, il y a l'Iran derrière.
Le Hezbollah. Les Houthis.
Très certainement, oui. Et très certainement avec... disons, sinon un accord, disons une neutralité bienveillante de la Russie. Voilà, on va dire ça comme ça, pour être diplomate.
Ah non, mais je crois qu'on peut le dire, puisqu'il y a quand même un désaccord entre l'Iran, la Russie,
absolument.
La Chine.
Tout à fait.
Avec les BRICS.
Ouais. Donc, bon, après, il est évident que pour moi, et pour un certain nombre d'entre
nous...
Mais
il n'y a pas pour l'instant de guerre d'État à État.
Non, parce qu'en face, il n'y a pas d'État.
Voilà.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'État. La résolution de 1947 de l'Union de l'Orientation des Nations Unies n'a pas été appliquée. Et n'a pas été appliquée pourquoi? Parce que, en fait, en réalité, les premiers qui ont refusé la séparation de la Palestine en deux États indépendants, c'est l'autorité religieuse palestinienne, c'est le grand mufti de Jérusalem qui a dit ben non.
D'ailleurs, grand collaborateur avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il avait passé toute la guerre, effectivement, chez Hitler. Il a dit aux Palestiniens de prendre, je précise bien le mot, le douloureux chemin de l'exil. C'est ce qu'il a dit.
Ah oui.
Ce sont ses termes. Donc, effectivement, partant de là, se sont suivis ensuite une succession de conflits israélo-arabes qui ont été gagnés par Israël, quelquefois juste, mais ils l'ont gagné. Et aujourd'hui, on est dans une situation, honnêtement, inextricable. Quoi. Je ne sais vraiment pas. Mais je ne sais vraiment pas comment sortir de ce truc-là. Quoi. Moi, je n'ai pas de solution, en dehors du fait, comme disait le grand rabbin de France, Raïm Korsia, en dehors du fait de discuter. Parce qu'on ne peut pas sortir de là si on ne discute pas, si on n'essaye pas de se comprendre.
Oui, parce que les Israéliens, le gouvernement israélien ne fait pas la guerre aux Palestiniens. Mais c'est connexe, c'est-à-dire que dès lors qu'il veut éradiquer le Hamas, ô combien, hélas, des civils en subissent les conséquences.
Et d'autant plus que c'est particulièrement pervers, parce que n'oublions pas une chose, c'est que quand même Netanyahou a participé à financer et armer le Hamas contre l'autorité palestinienne.
Oui.
Et on voit le résultat.
En laissant l'argent du Qatar acheminer sur Gaza.
Eh oui. Donc,
c'est ça que j'arrive pas à comprendre non plus, parce qu'on dit, vu ce qu'on a trouvé dans le métro, comme on appelle le métro à Gaza, comment est-ce que c'est passé inaperçu, même au niveau des populations civiles de Gaza et même au niveau des autorités, israéliennes. Mais ça, c'est une question qu'on va mettre en suspens, parce que peut-être que sur ces sujets ô combien graves, un peu de musique va peut-être adoucir
les
mœurs. Périodes.
Côte Sud FM 90.3, la radio Sud-Aquitaine.
Comme l'eau des fontaines, comme les matins sur la montagne. Elle a les yeux presque aussi clairs que les murs blancs du fond de l'Espagne. Le bleu nuit de ses rêves m'attire, même si elle connaît les mots qui déchirent. J'ai promis de ne jamais mentir à la fille qui m'accompagne. Au fond de son jeu de miroir, elle a emprisonné mon image. Et même quand je suis loin le soir, elle pose ses mains sur mon visage. J'ai brûlé tous mes vieux souvenirs depuis qu'elle a mon cœur en point de mire. Et je garde mes nouvelles images pour la fille avec qui je voyage. On s'est juré les mots des enfants modèles. On se tiendra toujours loin des tourbillons géants. Elle prendra jamais mon cœur pour un hôtel. Je dirai les mots qu'elle attend. Elle sait les îles auxquelles je pense et l'autre moitié de mes secrets. Je sais qu'une autre nuit s'avance lorsque j'entends glisser ses colliers. Un jour je bâtirai un empire avec tous nos instants de plaisir, pour que plus jamais rien ne m'éloigne de la vie qui m'accompagne. On s'est juré les mots des enfants modèles. On se tiendra toujours loin des tourbillons géants. Je prendrai jamais son cœur pour un hôtel. Elle dira les mots que j'attends. Elle sait les îles auxquelles je pense et l'autre. l'autre moitié de mes délires. Elle sait déjà qu'entre elle et moi, plus il y a d'espace et moins je respire.
Saint-Martin-de-Seignanx, j'écoute Côte Sud FM 90.3.
Eh bien, bonjour Saint-Martin-de-Seignanx. Nous, on est à Seignanx, justement, donc ça tombe bien. Gérard Clavry est notre invité. Il représente Europe Écologie Les Verts. Et on était sur le terrain, comment dire, du Proche-Orient. J'ai envie de vous poser la question. Vous considérez quand même le Hamas comme un groupe terroriste?
Ah oui, indiscutablement.
Ah, donc vous n'avez pas peur de le dire?
Ah oui, non, non.
Parce que si ma mémoire est bonne, mais je me trompe peut-être, il y a comment dire, un courant politique qui se refusait à qualifier le Hamas de terrorisme. Je veux parler de la France insoumise. Qu'est-ce que vous en pensez?
Le problème, c'est que on a pour habitude de ne pas aller, en principe, se mêler un petit peu des affaires des autres. Après, c'est le... J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon qui justifiait par une rhétorique très intelligente, hein, comme on peut
il
le...
L'est.
Il l'est, indiscutablement, intelligent, cultivé, il n'y a pas de souci là-dessus.
Pas du tout outrancier, par contre.
Pardon ?
Pas du tout outrancier.
Tout en
délicatesse.
Il a quelquefois quelques dérapages, c'est sûr. Et donc, il a essayé de justifier le fait de ne pas considérer ou de ne pas appeler le Hamas comme un groupe terroriste. Bon, c'est une explication qui lui est propre et moi, je préfère ne pas intervenir là-dessus. C'est son droit. Toujours est-il que nous, les écologistes Europe Écologie, nous, il est clair que le Hamas est pour nous un groupe terroriste indiscutablement, puisque leur but, c'est de répandre la terreur. Et c'est ce qu'ils ont fait le 7 octobre, indiscutablement. Ah. Et c'est ce qu'ils ont fait avant, etc. Donc non, il n'y a pas de souci là-dessus.
D'accord.
Pour nous.
D'accord. Je suppose quand même que l'aspect social intéresse... Europe Écologie Vert, qu'est-ce que vous préconisez pour lutter contre la pauvreté? Parce que c'est vrai que c'est un problème fort en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est un problème fort qui touche... Alors, puisqu'on est dans le cadre de l'élection européenne, on va parler
oui.
de l'Europe, mais
oui.
la France ne fait pas exception, bien entendu. Hein, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un cinquième de la population européenne qui est menacée d'exclusion sociale. Un Européen sur cinq.
Donc 20%.
Dans le marché économique le plus puissant du monde. C'est totalement inacceptable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on peut comprendre que certains pays sont un petit peu à la traîne parce que ils ont un historique lié. C'est les anciennes républiques de l'Est, etc. Ils sont un peu à la traîne vis-à-vis des pays occidentaux comme l'Allemagne et la France. Mais la France ne fait pas exception à la règle. Nous avons énormément de pauvres et de gens en précarité sociale dans notre pays. Donc ce n'est pas c'est quelque chose qui est très général. Et si on sort de l'Europe et qu'on regarde ce qui se passe par exemple dans la plus grande puissance économique du monde, les États-Unis, c'est le même schéma. Donc il y a un problème qui est lié en fait aux choix économiques qui sont faits.
C'est-à-dire le problème de la redistribution des richesses.
C'est le problème de la redistribution des richesses, mais c'est aussi le problème de la protection des plus faibles. Parce que cette protection sociale est en train de sauter partout. Alors quand il y en avait, nous on en a en France,
oui.
mais elle est de plus en plus fragilisée. Et les comment ça s'appelle la politique.
Il va nous le dire.
La politique d'austérité qui est lancée par Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qu'est-ce qui va morfler le plus ? C'est effectivement les plus pauvres, les plus précaires et l'écologie.
Alors, vous voulez dire quoi à ce moment-là ? Il faudrait alourdir, comment dirais-je
taxer...
Les plus riches ?
Je pense qu'il fait...
Un impôt sur les plus riches ? Un impôt européen sur les plus riches ?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, la redistribution est en net recul depuis 40 ans. Hein. Aujourd'hui, on redistribue moins proportionnellement que ce que l'on faisait en 1980. Donc il y a un problème là-dessus aussi. C'est que le système économique, et je vais dire plutôt le système financier, a fait qu'aujourd'hui, on amasse le plus de richesses possibles, toujours dans les mains des plus riches. Et par contre, les plus pauvres, ils se démerdent. Hein, c'est le système malthusien. Hein, voilà. Par contre, toutes les contraintes qui sont liées au droit social, et que ce soit au plan du pays, mais au niveau des entreprises, on essaie de par tous nos moyens de le faire sauter.
Et pourtant, il existe en France un peu plus qu'ailleurs.
Il existe
en Europe.
En France un peu plus qu'ailleurs, oui, effectivement. Mais c'est en train de les digues sont en train de sauter. Et ça date pas d'aujourd'hui. Hein, les digues sont en train de sauter. Donc, vous avez des successions de crises que l'Europe a traversées, de crises économiques que l'Europe a traversées depuis 40 ans. Et ces successions de crises ont fait que aujourd'hui on a donc instauré des politiques d'austérité qui bien sûr sont les plus malmenées dans ces politiques d'austérité. Ce sont effectivement les pauvres, l'écologie et les services publics.
D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la première ministre, on va le dire, italienne, qui va se servir des fonds européens pour pouvoir essayer de lutter ou d'amoindrir l'IVG en Italie. Parce que c'est ce que j'ai bien pu comprendre, c'est qu'une partie des aides européennes sera utilisée en Italie pour pouvoir, dans chaque lieu où l'IVG est pratiqué, mettre une personne pour dissuader la personne de se faire, d'avoir une interruption volontaire de grossesse.
Je ne sais plus quel philosophe disait que l'homme sera libre lorsque la femme sera libre.
Ben, c'est pas parti. Hein.
Et c'est pas parti, non, comme vous dites.
Pourtant, on dit la femme est l'avenir de l'homme.
Et ouais, c'est ce qu'il chantait, mais c'est
Aragon, je crois.
Ouais. Et mais si vous voulez, l'IVG, c'est quelque chose de un petit peu symbolique. C'est symbolique de ce qui se passe dans notre pays. Et vous remarquerez que tous les gens qui sont, enfin, la majeure partie des gens influents, importants, qui sont contre l'IVG, ce sont des hommes. Ce ne sont pas des femmes. Alors, si on accepte Mélanie, mais qui est un cas particulier, mais sinon, la plupart du temps, ce sont des hommes. Ce sont des religieux, ce sont des politiques, essentiellement, qui s'opposent, pour des raisons X, à l'interruption volontaire de grossesse. C'est-à-dire que...
Mais ce n'est pas une obligation, l'IVG. Si la femme veut faire une interruption volontaire de grossesse, elle le fait. Si elle ne veut pas, elle ne le fait pas.
Non, mais bien sûr.
Pourquoi interdire quelque chose alors que la femme... a envie de pouvoir contrôler son corps, son avenir. J'arrive pas très bien à comprendre.
C'est ça le sujet, c'est ça le problème. C'est que, en fait, tous ces gens-là s'opposent, si vous voulez, à une liberté fondamentale qui est le libre droit des femmes à disposer d'elles-mêmes. On accepte le libre droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais pas les femmes. On l'accepte. Si, on accepte, mais là, il y a des gens de plus en plus forts et il y a des mouvements de plus en plus costauds qui de plus en plus s'opposent à ça. Alors en France, on a inscrit ça dans la Constitution. Super, bien. C'est merveilleux. Mmh. Par contre, il se passe une chose, et ça c'est une question que je pose aux constitutionnalistes. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste. Mais à partir du moment où c'est dans la Constitution, est-ce que les médecins ont le droit de choisir ou pas d'appliquer un droit constitutionnel ? C'était prévu dans la loi de 1975, pour des questions de conscience, c'est les médecins qui avaient le droit de dire « moi, je ne fais pas ». Aujourd'hui, c'est inscrit dans la Constitution. Est-ce qu'ils ont le droit de dire « je ne fais pas » ? Je laisse ça aux constitutionnalistes.
Hein ? D'accord. On va les interroger. Hein.
Ben, voilà, il faut interroger les spécialistes.
Lolo, qu'est-ce que tu penses Alors, par contre, j'ai pu comprendre que l'IVG peut être pratiqué par des sages-femmes.
Ouais.
Et infirmière, peut-être ou
infirmière, non.
Sage-femme, en tout
mais
cas.
Mais les sages-femmes sont des docteurs. Hein, ce sont, oui, des, oui, c'est une, ce sont des médecins.
Elles ne pouvaient pas faire tous les actes.
À peu près les gars.
Elles ne pouvaient pas faire tous les actes.
Voilà, elles ne peuvent pas faire tous les actes.
Mais là, oui, c'est ouvert sur voilà. Les sages-femmes.
Ouais. Et ça, c'est quelque chose de... Enfin, moi, quand j'ai fait mes études aux hôpitaux de Paris, bon, j'ai vu un petit peu, je ne vais pas vous décrire à l'acte, hein, mais ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui est... Bon, on n'y va pas pour le plaisir, quoi.
Ah, certainement pas.
C'est pas un acte... Moi, quand j'entends des gens qui supposent, des politiques notamment, qui supposent qu'on va, on va consommer de l'IVG comme on consomme de l'aspirine, non, c'est quelque chose de traumatisant sur le plan psychologique et c'est traumatisant également sur le plan physiologique, physique. Donc non, c'est pas un plaisir. Et les gens qui prétendent que c'est un plaisir, bon, ouais. Je dis pas ce que j'en pense, voilà, non, parce que je suis à la radio.
Ah bon, bah, on n'est pas à la radio alors. donc voilà. On va peut-être passer un petit air de musique, hein, sur un sujet grave par contre cette fois-ci.
90.3 Côte Sud Aquitaine.
Côte Sud FM.
90.3 Côte Sud FM.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean Bouche d'Or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis au calende, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faute. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
À Boucau, j'écoute Côte Sud FM sur 90.3.
Toujours avec Gérard Clavry, représentant de Écologie Les Verts, et une question qui me taraude. Comment vous pouvez-vous expliquer que un parti politique pour les élections européennes qui vont se dérouler le 9 juin prochain émerge, à savoir le Rassemblement national qui tourne autour de 30%. C'est quand même un peu inattendu.
C'est un peu inattendu, oui et non, parce que ça fait quand même depuis un petit moment que l'on voit en fait les intentions de vote se diriger vers le Front National. Alors, Front National, ou Rassemblement National, toujours c'est pareil. Hein, c'est...
Vous changez le F en N.
Oui, voilà.
En N, pas H-A-I-U-N-E, hein, en N, la lettre.
Ouais, ouais. Et c'est assez incompréhensible parce que les gens sont soit sourds, soit aveugles, soit...
Sourds, c'est gênant pour nous. Hein,
mais oui, mais...
La radio.
C'est incompréhensible, ouais. Parce que, en fait, quand on connaît les votes du Front National, c'est certainement pas un vote populaire.
Pourquoi vous dites ça?
Je vais vous montrer un petit truc. Je vais dire une chose. Par exemple, le Rassemblement National, parce que
je suis le RN,
voilà. C'est a voté contre, par exemple, la mise en place des salaires minimums en Europe. Il a voté contre la rémunération des stagiaires. Il a voté contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes en Europe.
Ouais.
Il a voté également contre le renforcement du dialogue social dans les comités d'entreprise européens. Il a voté contre les abus des multinationales.
Ça veut dire que vous voulez me faire penser que le Rassemblement national est quand même plutôt un parti qui s'oriente sur la défense des riches ou des structures prédominantes.
Le Rassemblement national est un parti conservateur. C'est pas un parti progressiste. C'est pas un parti qui va défendre les ouvriers et les agriculteurs. Je continue. Il a voté contre également... dans une proposition de loi de soutien aux ménages dans le cadre de la transition écologique, il a voté contre. Il a voté également contre l'Europe sociale. Il a voté contre la protection des travailleurs précaires. Il a voté, on parlait de l'IVG tout à l'heure, il a voté contre l'accès gratuit de l'IVG pour toutes les femmes dans l'Union européenne. Ils ont voté contre ça.
D'accord. Alors, ça, vous voulez me dire qu'au niveau du Parlement européen, ils ont une politique, une orientation qui est quand même très conservatrice, très protectrice des plus riches.
Oui.
Et qu'en France, dans la politique intérieure en France, ils se cachent en se faisant oublier sur ce domaine.
Mais il a même plus besoin de se cacher, puisque même en France, sur la proposition des revenus planchers pour les agriculteurs, ils ont voté contre.
Qu'est-ce que c'était le revenu plancher? C'est-à-dire gagner un minimum de...
En réalité, le revenu plancher, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, lorsque vous avez quelque chose qui vous coûte 100 euros, vous ne pouvez pas le vendre 80.
Oui.
Voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire c'est avoir le minimum, si vous voulez, où on ne puisse pas descendre en dessous de ce que ça coûte réellement. Alors,
Et pourtant, on avait l'impression, à un moment donné, que le Rassemblement national défendait les agriculteurs. Ça veut dire que c'est une illusion.
Mais bien sûr.
C'est la magie.
Mais c'est, en fait, c'était, ils sont devenus très forts en matière de communication. Et à faire croire qu'ils ne sont plus antisémites, ils ne sont plus homophobes, ils sont pour la protection des petits agriculteurs. Alors qu'en fait, en réalité, dans la réalité, si vous êtes d'accord avec ça, tout le monde vote pour.
Je pense.
En fait, toute la droite...
On a le droit d'être contre, mais c'est vrai que si on est...
Mais il faut justifier. Après.
Voilà.
Il faut le justifier. D'accord. On a le droit d'être contre. Mais il faut le justifier. Ne le justifie pas. Et toute la droite et l'extrême droite ont voté contre les revenus planchers. Ils ont voté contre un revenu décent pour les agriculteurs. Donc, moi, quand on me dit... quand je vois les sondages, moi, je dis aux gens qui nous écoutent, attention, vous ne trompez pas le 9 juin, sinon le réveil va être difficile. Ils ne sont pas pour nous.
D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que ce sont des illusionnistes.
Oui, ce sont des politiciens professionnels.
Voilà. Oui, enfin, bon, il y en a d'autres.
Il y en a d'autres, mais ceux-là, ils sont bien quand même.
D'accord. Voilà. Quel est en quelques phrases, quel est le message fort que vous voulez envoyer à nos auditeurs pour pouvoir voter pour la liste Écologie Les Verts? Europe Écologie Les Verts.
Écoutez, moi je vais faire juste un petit récapitulatif de ce que nous sommes. Nous sommes les véritables alliés et les défenseurs de l'agriculture.
Oui.
L'agriculture, c'est quand même nous qui, au niveau européen et même au niveau national, qui la défendons avec d'autres forces de gauche. Bien entendu, on n'est pas. Mais il n'empêche que quand même, écologiquement, c'est quand même nous qui le faisons. Nous sommes quand même pour refondre le pacte social agricole, parce que c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure au début de l'émission, où il faut revoir un petit peu tout ça. Nous sommes pour une Europe sans toxiques, parce qu'aujourd'hui, nous sommes complètement empoisonnés par toute l'agrochimie et l'agro-industrie.
D'accord.
Et bien sûr, lutter contre la pauvreté, pour la mise en place d'un droit social en Europe, interdire bien entendu les OGM, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé, mais c'est quelque chose qui est quand même important. Justement, on parlait des échanges internationaux tout à l'heure, ça aussi, on n'a pas le droit de cultiver des OGM. En France, mais par contre, on les reçoit dans les accords de libre-échange, ce qui n'est pas normal. Voilà. Et bien sûr, on n'a pas parlé de ça, mais on aurait dû en parler. Protéger l'océan de toutes les pollutions, parce que inévitablement, quand on pollue l'océan, ça nous revient dans nos assiettes.
Ah, forcément.
Et on le mange, ce qui se passe.
Et c'est le mercure au niveau des poissons que l'on peut manger,
entre autres,
venant de l'océan.
Entre autres,
on est bien placé pour le savoir.
Oui, oui.
Gardons nos côtes landaises propres, non souillées et accessibles au niveau de la santé et du bonheur de tous.
Et c'est ça. Et donc, si on pollue l'océan, on pollue nos assiettes.
Ouais.
Et donc, on se rend malade.
D'accord. Écoutez, ne soyons pas malades. Gérard Clavry, je vous remercie. Je pense que les auditeurs pourront se faire une idée de ce qu'est le programme Europe Écologie Les Verts pour le 9 juin. Et un dernier mot en ce qui me concerne, sans prendre parti, allez voter.
Ah ça, c'est impératif, sinon...
Oui, il ne faudra pas regretter ce qui peut se passer après.
Sinon, les choses se feront sans nous, c'est
voilà.
Sûr.
Gérard Clavry, merci.
Je vous remercie à vous.
90.3, Côte Sud Aquitaine.
Côte Sud FM.
90.3, Côte Sud FM.